Seigneur, on veut encore une fois que tu puisses nous enseigner des vérités sur ton œuvre, sur ce que tu fais présentement pour nous. Encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, merci de vraiment amener cette lumière, que ta parole devienne lumière, que ça ne reste pas juste de l'information, mais que ça devienne vraiment une lumière dans ce monde de ténèbres. Que ce soit, Seigneur Dieu, un lieu d'ancrage solide, fiable. Parce que cette parole, c'est la tienne. Le monde peut parler de toutes sortes de choses, mais tu dis que le monde pense. Mais toi, tu ne penses pas, tes paroles demeurent éternellement. Seigneur, s'il vous plaît, on a besoin de toi. On a besoin que tu puisses renouveler notre intelligence afin de nous apprendre jour après jour comment marcher avec toi. Encore une fois, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, Hébreux, au chapitre 4. On se rappelle la dernière fois que l'auteur ici, de manière très pastorale, nous exhorte de manière très pratique. À toutes les fois qu'il va donner une explication de quelque chose, il en fait après ça une exhortation. Donc, si on revient au chapitre 4, verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est réservé, encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert à ses yeux, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc ici, à partir du verset 14, l'auteur va comme faire une application en disant donc « ainsi », « ainsi » en fonction de ce qui venait d'être dit. Maintenant, comme on s'est rappelé par la parole de Dieu, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est important. Parce que le danger, quelquefois, et notre société va dans cette direction. Vous remarquez qu'on cherche de plus en plus à développer par la technologie, par la science, par la médecine. On veut aujourd'hui vivre n'importe comment, mais pas subir les conséquences de comment on vit. Tu sais, souvent, je ne sais pas, moi, des gens commencent à avoir des problèmes de santé, on va voir le médecin, et puis on va lui demander plus souvent qu'autrement une pilule plutôt qu'un régime. Pas vrai? Problème de cholestérol, régime ou pilule? Bien, c'est plus facile de dire de moi donc une pilule. Parce que souvent, on cherche à continuer à vivre comme on veut vivre, mais on veut récolter souvent une récolte qui n'a rien à voir à la manière qu'on vit. Et savez, il y a même un danger pour nous, les chrétiens, de prendre la grâce de Dieu, l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, la sécurité dans laquelle il nous met, pour penser que maintenant, un coup sauvé, je peux vivre n'importe comment. Bien, l'auteur nous montre que non, on ne peut pas vivre n'importe comment. Moi, je ne crois pas que l'auteur est en train, parce que je sais que l'Épître, ici aux Hébreux, peut faire peur à bien du monde. Parce que tu as l'impression que tu perds ton salut en chemin, si on le comprend mal. Mais je ne pense pas que l'auteur parle ici d'abord de la perte du salut, car ceux qui sont réellement nés de nouveau, régénérés, finalement, l'auteur va nous donner beaucoup d'exhortations. Comment maintenant développer cette vie? Parce que c'est une vie, même Paul va l'écrire différemment dans une épître, puis je pense que ce monsieur-là, on ne sait pas c'est qui, là, mais il faisait quand même partie de l'entourage de l'apôtre Paul, parce qu'il élabore énormément ce que Paul a enseigné dans ses lettres. Et c'est la première fois qu'on voit qu'un auteur dans le Nouveau Testament va définir, décrire le rôle finalement de Jésus dans les lieux célestes pour nous, comme souverain sacrificateur. Tu sais, souvent on dit, Paul va dire par exemple, lui, de manière très raccourcie, il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu, Jésus-Christ, homme. Il souligne le mot « homme ». Parce que pour être souverain sacrificateur, selon l'ordre que Dieu avait établi, entre autres en Israël, et même avant, il va en parler un peu plus tard de Melchisédek, un souverain sacrificateur est un intermédiaire entre Dieu et nous. Et c'est pour ça que finalement, il nous rappelle le rôle du Seigneur aujourd'hui, c'est d'être notre souverain sacrificateur. Et il va montrer à quel point c'est important pour nous d'apprendre à marcher avec le Seigneur sous ce souverain sacrificateur. C'est pour ça que le Seigneur dit « Demandez en mon nom ». Aucun de nous a le droit d'aller à Dieu directement. Parce que vous vous rappelez, quand le rôle a été établi par Aaron, durant le temps de Moïse, Dieu a parlé de manière assez claire sur le rôle du souverain sacrificateur. Il rappelle à Aaron, entre autres dans l'Exode, puis il va développer finalement leur ministère, surtout dans le Lévitique, mais il va rappeler en disant « Personne ne peut entrer dans le lieu qu'on appelait le lieu, même le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint était réservé que pour ceux qui étaient des sacrificateurs, des prêtres. Les gens du peuple ne pouvaient pas entrer là. Et c'était établi par Dieu. Ce n'est pas un rôle que quelqu'un peut s'assumer par mérite humain, au nom qu'il avait beaucoup prié, jeûné beaucoup. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quelque chose que, c'est un mandat que Dieu donne à quelqu'un. Quand Dieu appelle, il justifie. Et quand il justifie, il glorifie. Ce n'est pas juste pour notre salut, c'est pour toute notre marche. Et c'est pour ça que c'est très important de discerner ce que Dieu appelle à être. Maintenant, Aaron a été choisi et sa tribu. Et pour montrer que ça n'a rien à voir avec la sainteté personnelle, même s'il faut se sanctifier, le rôle, cette tâche, ce ministère, c'est sur la base que Dieu, quand il appelle, il justifie. Est-ce que vous comprenez quand j'insiste là-dessus? Là? C'est vraiment important parce que nous autres, les chrétiens, quelquefois, on peut perdre de vue que si on a été appelé et sauvé, c'est sur la base qu'il nous a justifiés. Et oui, la volonté de Dieu après notre salut, c'est notre mise à part, notre sanctification. Donc, de vraiment abandonner la manière que le monde vit pour découvrir la manière que Dieu veut qu'on vive avec lui. C'est quelque chose de très pratique. Maintenant, Jésus, en tant qu'homme, est-ce que vous pensez que, humainement parlant, Jésus était supérieur aux sacrificateurs de l'époque, comme Caïphe ou Anne. Comme homme, est-ce que vous pensez que moralement, spirituellement, Jésus était supérieur à ceux qui étaient au service dans le temple? Il était sans péché, fils de Dieu, incarné. Et puis en même temps, à l'époque, les sacrificateurs de l'époque, c'était des corrompus. Ils faisaient beaucoup de compromis. Même la preuve, quand, par exemple, Nicodème a voulu finalement plaider un peu pour Jésus en disant, bien, c'est injuste, qu'est-ce que vous faites selon la parole? Si on entend une accusation, il faut entendre aussi la réponse de l'accusé. Et ils ont dit, ah, tu fais partie de sa secte! Ils ont commencé à l'intimider. Puis Nicodème, bien, le danger de devenir quelqu'un d'important dans le monde aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que vous êtes beaucoup plus vulnérable au monde. Et par exemple, quelqu'un qui a des grands diplômes, eh bien, vous savez, il y a des gens qui peuvent les perdre, leurs diplômes. Si, par exemple, l'université vous rejette pour X raison, il y en a qui veulent rester bien tranquilles en dessous des radars. Et M. Nicodème, c'était une notoriété de l'époque, c'était le docteur. J'ai dit, comment tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? Le docteur! Mais le problème, il est le docteur par la gloire des hommes. Mais Jésus est vraiment le vrai docteur, mais par mandat que le Père lui a donné. Maintenant, Jésus, moralement, il est supérieur à tout le monde en Israël. Et surtout à l'époque des sacrificateurs, des gens de l'époque. On peut juste voir comment ils ont fait le procès de Jésus. En plus, ils ont fait ça de nuit. C'était illégal. Ils ont été illégaux sur toute la ligne. Il était jaloux de lui. Même un gars comme Pilate, qui n'était pas juif, qui est un bon vieux païen, il voyait bien finalement qu'il voulait faire tuer Jésus parce qu'il était jaloux de lui. Il gagnait trop en popularité. Maintenant, Jésus nous montre à quel point il y a un respect à la parole de Dieu. Est-ce que vous réalisez que Jésus, lorsqu'on voit que dans les évangiles qu'il enseignait dans le temple, il faut faire très attention de bien comprendre ce que ça veut dire quand il enseignait dans le temple. Il n'enseignait pas dans le lieu saint, il n'enseignait pas dans le lieu très saint, il enseignait dans le parvis, où là, le peuple avait le droit de venir. Il n'est jamais, Jésus n'est jamais de son vivant entré dans le lieu saint, ni même dans le lieu très saint. Et pourtant, il était supérieur en toute chose à la mafia de l'époque. Mais il sait très bien que c'est un mandat de délégation. Et chacun, ça c'est bien important pour nous autres aussi, le Seigneur sait très bien qu'à toute portion que Dieu nous donne dans la vie, il y a une responsabilité, il y a des privilèges, mais il va y avoir à la fin un jugement. Chacun de nous, on est destiné à un jugement selon les dons, les capacités et tout ce que le Seigneur nous a donné, et surtout même par rapport à la connaissance. C'est pour ça que le Seigneur parle aussi du jugement en degrés. Ceux qui ont eu beaucoup plus d'instructions sont beaucoup plus responsables que ceux qui en ont moins eu. Donc, le Seigneur n'est jamais entré dans le temple de son vivant. Mais lorsqu'il est mort à la croix, c'était, au fond, si vous remarquez bien, je pense que Anne ou Caïphe, je ne me rappelle plus des deux, quoi, c'était le beau-fils, mais anyway, c'est... Ils ont au moins quelque chose en commun, ils étaient tous deux pourris, ce qui n'est pas grave. Mais il y en a un qui a dit, il ne s'en rend pas compte, il prophétise, « Vaut mieux qu'un seul meure que tout le peuple. » Et il prophétisait sans s'en rendre compte. En d'autres mots, les gens de l'époque, les sacrificateurs, ont sacrifié le véritable agneau de Dieu, celui qui enlève, comme Jean-Baptiste disait, le péché du monde, le seul par lequel le monde peut être sauvé. L'unique véritable agneau de Dieu. Celui qui avait été tué en Égypte, tous les agneaux étaient l'image de l'agneau qui devait venir. Et plus on découvre tous les types de l'Ancien Testament et que tout pointe vers Christ, eh bien, il y en a un ministère extrêmement important dans l'Ancienne Alliance. Car pour avoir communion avec Dieu, même pour connaître la volonté de Dieu, même le roi David avait déjà été consulté à plusieurs reprises de sacrificateur pour savoir est-ce que je dois poursuivre, est-ce que je dois faire ci. Et puis le sacrificateur avait finalement une manière d'avoir le oui ou le non de Dieu. Donc, Jésus-Christ est devenu David, le roi. Mais en passant, David ne pouvait pas entrer dans le temple. Il était de la tribu de Juda. Mais il est aussi devenu le souverain sacrificateur. Et en même temps, il est la parole de Dieu. Dieu a parlé par le Fils, ou même dans le grec, c'est pas par dia, mais c'est en. Dieu a parlé en Fils. Donc, il réunit les trois ministères, le roi, le sacrificateur et le prophète. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et tout est là. Maintenant, son ministère de sacrificateur. Prenez le temps de relire dans l'Ancien Testament le rôle du sacrificateur en Israël pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à Jésus-Christ. Jean nous rappelle que si on dit qu'on n'a pas péché, eh bien finalement, on n'a rien compris. Par contre, si on marche avec le Seigneur dans sa lumière, quand vous marchez dans la lumière du Seigneur, maintenant, quand Jean dit que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, d'après vous, c'est quoi marcher dans la lumière de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu, mais comment on la discerne, comment on la reçoit? Sa parole. La parole est une lumière, c'est une lampe à nos pieds. Jésus, c'est la parole faite chair. La lumière est venue dans le monde. Et la lumière éclaire tous les hommes, Jean nous rappelle aussi dans son évangile. Mais il y a un problème. Ça va séparer l'humanité en deux, la lumière. Parce qu'il dit, le monde a préféré les ténèbres à la lumière, parce que quoi? À cause que la lumière vient mettre que toutes nos œuvres, même nos plus belles œuvres, qu'on est émerveillés nous-mêmes devant nos propres œuvres, eh bien, finalement, comme Ésaïe dit, même notre justice, la plus belle justice qu'on peut produire, est déjà souillée. Et puis, mais tant qu'on n'a pas la lumière, on ne peut pas le voir, ça. Et faites attention. Qui est à l'origine de votre évaluation? Le monde ou Dieu? C'est ça le grand défi. Si c'est le monde aime ce qui est de lui. Mais le Seigneur, finalement, dit, n'oubliez pas ceux qui auront fait la volonté du monde, ceux qui ont recherché les désirs du monde, mais comme le monde passe, bien, ces gens-là vont passer aussi. Par contre, ceux qui auront fait la volonté de Dieu demeurent éternellement. Donc, le premier but, finalement, du souverain sacrificateur, c'est d'être notre intermédiaire. Celui, finalement, il devait, en plus, première caractéristique du souverain sacrificateur établi par Dieu, il faut qu'il soit un être humain. Et c'est pour ça que Dieu a dû, finalement, voir à ce que la deuxième personne de la Trinité s'incarne en être humain véritable. Et donc, il est venu sur terre, et donc, après avoir donné sa vie en rançon, comme étant l'agneau, le sacrifice, eh bien, il a totalement accompli. Quand une prophétie s'accomplit, quand un type s'accomplit, il s'abolit pour faire place à la réalité. L'ombre passée, la réalité est devenue. C'est intéressant parce que l'image de l'ombre, bien, il faut que tu aies un original pour qu'il y ait une ombre. Pas vrai? On ne peut pas avoir quelque chose d'invisible comme ombre. Mais celui qui était l'original, quand il est venu, c'est plus l'ombre qu'on suit, c'est le véritable. Maintenant, il est devenu notre souverain sacrificateur. Et en plus, il nous rappelle qu'il s'est fait un humain comme nous. Et pour tous ceux qu'il a rachetés, l'auteur nous a rappelé, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez finalement que le Fils unique de Dieu, l'unique engendré du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, s'est incarné pour devenir un véritable humain au point qu'il peut dire maintenant, « J'ai pas honte de les appeler mes frères et sœurs. » Jésus a pas honte de nous autres. Moi, je trouve ça émouvant, je trouve ça vraiment spécial. Tu sais, quand on prie, parce que Jésus dit, « Voici comment vous devez prier. » Tu sais, parce que les disciples leur ont demandé un jour, « Apprends-nous à prier. » Jean-Baptiste a appris au Seigneur comment prier. Tu peux-tu nous... Tu sais? Quand vous priez, dites, « Notre Père. » C'est pas n'importe quoi, là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. mais juste le « notre Père ». Est-ce que vous réalisez qu'on est tous des enfants adoptés, rachetés, adoptés, pardonnés, et maintenant Jésus dit « vous êtes ma famille, vous allez partager avec moi la raison de toute la création de Dieu ». Tout ce que Dieu a créé dans le monde visible et invisible va devenir l'héritage de chacun de nous avec notre grand frère Jésus. Mais présentement, pendant qu'on marche sur terre, c'est important parce qu'un coup sauvé, il va toujours définir qu'on est tous entrés, un coup sauvé, dans une vocation. L'apôtre Paul va le définir différemment en disant maintenant, après avoir donné des explications, dans l'Épître aux Éphésiens, il va dire « maintenant, comportez-vous d'une manière digne de la vocation ». On a une vocation, que ce soit dans l'Épître aux Romains, l'Épître aux... Il va toujours rappeler aux croyants, vous avez ici présentement une vocation. On n'est pas laissé sur terre pour jouer notre salut. Tu sais, parce que moi, quand j'étais tout jeune chrétien, l'Église qui m'a annoncé le salut, c'était quand même intéressant, parce que c'était des anciens. Un des anciens nous enseignait qu'on pouvait perdre notre salut. Ça me rendait nerveux à toutes les fois que c'est lui qui prêchait, parce que je sentais que... Puis l'autre ancien, qui est devenu un peu plus mon pasteur, puis jusqu'à aujourd'hui, il prie pour moi, puis lui, il prêchait plutôt la sécurité éternelle. Ça me faisait du bien. Mais en même temps, ça me mettait un peu de confusion dans la tête. On le perd-tu ou on le perd pas? T'sais? Puis longtemps, humainement, émotivement, affectivement, c'était plus facile pour moi de savoir que je pouvais perdre mon salut. Parce que tant qu'on n'est pas ancré dans l'œuvre de Christ, inévitablement, on vit beaucoup plus de ce qu'on vit nous autres, de nos mérites. C'est dur d'abandonner finalement tout espoir dans tes mérites pour entrer dans l'œuvre parfaitement accomplie par Christ. Ce n'est pas évident. Ça ne se fait pas si facilement que ça. C'est là qu'il dit, ceux qui entrent dans le repos, ils ont fini leurs œuvres. En d'autres mots, le vrai repos du salut, c'est d'entrer dans l'œuvre de Christ et d'abandonner maintenant d'espérer dans ce qu'on fait pour être sauvé. Mais ce qui est béni, par contre, c'est qu'on est devenu, l'Épître, l'auteur va dire un peu plus loin, on va devenir normalement un peuple zélé pour les bonnes œuvres. C'est quand même incroyable. Il dit, entrer dans le repos, celui qui est rentré dans le repos, ses œuvres, là, il les a faites, c'est fini. Comme Dieu, c'est repose des siennes. Mais en même temps, il dit, n'oubliez pas, ça va faire de nous un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bon, c'est-tu encore mes deux pasteurs? Non, en réalité, il est en train de dire, vous êtes délivrés d'espérer dans ce que vous faites pour être sauvés. Maintenant, vous avez, par la nouvelle naissance, car tout ce qui est né de la chair est chair. Jean nous rappelle ça. Si on met des enfants au monde, ben c'est des enfants qui sont ma chair de la chair, qui est une super belle illustration. C'est peut-être l'activité, l'œuvre la plus incroyable qu'on peut faire en tant qu'être humain. Tu sais, parce que, je ne sais pas comment on peut... Dieu nous donne, en langage humain, le Fils de Dieu. Tu sais, il est l'éternel engendré du Père. Puis on le voit plusieurs fois, il va être engendré. Tu te dis, coudonc, ça marche comment cette affaire-là? Tu sais? Mais arrêtez, c'est une expression pour montrer que la plus grande des œuvres qu'un être humain peut faire, c'est pour souligner à la fête des mères en passant, c'est de produire un être humain. Je sais qu'aujourd'hui, on a tellement banalisé la vie humaine que c'est plus important ta job, c'est plus important ta maison. Il y en a qui vont même embrasser leur char. Bon, ben, tu sais. C'est pas grave, il y a de la déficience mentale un peu partout, on excuse ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les êtres normaux, un être humain normal va considérer d'avoir produit un être humain comme étant l'œuvre de toutes les œuvres. C'est l'œuvre la plus spectaculaire. Vous avez mis au monde un être humain, c'est chair de votre chair. Je veux dire, il est sorti de vous. Une maison, là, c'est du bois, puis c'est de la brique. C'est pas vous. Pas vrai? Mais un être humain, comme mon petit ami ici, là-bas, là, tellement sympathique, mais en passant, eh bien, finalement, il est le résultat de vous deux. Votre chair a produit ce petit bonhomme-là, un être humain qui est là. Et en passant, savez-vous quoi? Un être humain qui est là pour toujours. Il va vivre pour toujours. Il va exister pour toujours. Une maison, si tu ne renouvelles pas ça régulièrement, eh bien là, moi j'ai des problèmes avec mes gouttières, il faut que je travaille là-dessus. Mais Écoute, le Seigneur nous montre en disant, il nous a engendrés. Notre salut, là, c'est pas qu'il nous a mis sur un programme, puis si tu ramasses assez de timbres, il y avait ça quand j'étais petit, là, les Gold Star qui appelaient, justement. Puis si tu as ramassé assez de timbres, tu vas avoir le toaster au bout, là, tu comprends? En réalité, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas que Dieu nous a mis sur un programme que si on travaille assez notre chair, elle va s'élever, elle va devenir un peu moitié esprit, moitié chair. Non, c'est deux types de nature distinctes. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Maintenant, moi, je suis venu dans votre chair. Maintenant, vous, par mon œuvre, vous allez venir dans ma demeure éternelle, esprit. » Le Saint-Esprit va engendrer carrément la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. » L'espérance en Israël devait être maintenue parce que le but de la loi, un des buts, ben, il y a trois buts à la loi quasiment, selon les Écritures, comme Paul l'enseigne, mais un des buts de la loi, en passant, c'est freiner le mal à cause de l'iniquité. OK, ça, on le comprend. Freiner le mal ne l'enlève pas, mais ça le freine. Ça l'empêche de sortir. Pas vrai, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez un char de police plus loin, qu'est-ce qui arrive? Ça freine le mal. Et si vous voulez faire des économies, vous descendez, vous économisez de l'essence en allant moins vite. Maintenant, ça n'enlève néanmoins pas le désir souvent de dire « je suis au-dessus des lois ». Le Seigneur, finalement, non seulement ça freinait le mal, mais en Israël, c'était pour produire aussi une autre chose. Non seulement ça freinait le mal, mais normalement, ça devait maintenir de génération en génération l'espérance dans la promesse de celui qui devait venir nous délivrer. La vie éternelle, c'est un don que Dieu était pour lui-même accomplir. La loi rappelait à chaque année, les souverains sacrificateurs de l'époque ne pouvaient pas, par les sacrifices qu'ils faisaient selon l'ordre de Dieu, enlever le péché pour que la personne puisse dire « Enfin, je suis sauvé ». Non, le souverain sacrificateur de l'époque, à chaque année, par les différents sacrifices qui se faisaient, les fêtes en Israël, c'était continuellement pour rappeler à quel point on attend celui qui doit venir. On attend celui qui va nous délivrer. Les gens étaient sauvés en croyant la promesse. Et comment ils manifestaient leur foi? En obéissant à la loi, malgré tous leurs échecs. Et quand ils échouaient, ils retournaient au temple devant le souverain sacrificateur. Et selon la loi, eh bien, il y avait certains types de sacrifices que vous deviez acheter pour offrir en vue d'avoir la purification externe, pas interne, externe, cérémoniellement. Donc, la loi était là pour rappeler sans arrêt le besoin d'une vraie eau pure qui nous lave. Ce qui était prophétisé, entre autres, quand Israël avait échoué l'alliance avec Dieu, il y avait des conséquences graves, dont la déportation. Et Ézéchiel va prophétiser au chapitre 36, si je ne me trompe pas au chapitre 36, là, sur la nouvelle naissance. Et puis, c'est pour ça que Jésus est déçu de voir que Nicodème, écoute-donc, Nicodème, t'as-tu perdu finalement la doctrine biblique? T'enseignes quoi au peuple? C'est quoi l'espérance que vous leur promettez? Chapitre 36, regardez ce qui est écrit encore une fois dans la promesse que le Seigneur fait. Au verset 22, il dit, « C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Ici, n'oubliez pas, le peuple d'Israël est une image, il est un type. Il dit, il va sanctifier son nom par vous. N'oubliez pas, Jésus, fallait qu'il vienne par la chair d'Abraham, d'où le signe de la circoncision, qui était finalement l'alliance de la postérité, une seule postérité. Et puis finalement, c'était Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit à la Samaritaine, qui était un peuple qui avait abandonné la promesse de Dieu. C'était finalement des Juifs qui s'étaient mêlés avec les nations. Vous pouvez relire ça finalement dans Esdras et Néhémie, quand ils sont de retour. Eh bien, ils ont perdu la promesse. Ce n'est pas qu'ils ont perdu la chance d'être sauvés, mais ce n'est pas par les Samaritains que Jésus va venir, que le Messie va venir. C'est ça qu'il dit à la Samaritaine. Le salut vient des Juifs. Et regardez bien ce qui est encourageant. Il ne dit pas parce que les Juifs sont supérieurs en moralité que les Samaritains. C'est par appel. Quand Dieu appelle, il justifie. Il paye pour ça. Donc, il annonce après ça le salut. Verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Puis il continue en démontrant tout ça. Donc, c'est l'œuvre que Christ s'en vient faire quand il est venu en Israël. Et tout le peuple d'Israël avait perdu de vue d'abord, encore une fois, les images qui annoncent la promesse. Le temple, les sacrificateurs, l'histoire de la manne, pourquoi ils ont gardé même un pot avec de la manne dedans, la verge d'Aaron. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire d'avoir gardé la verge d'Aaron dans le tabernacle? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi elle est si importante, cette verge? C'est sûr que c'est d'abord en Égypte face à Pharaon, Dieu peut faire un miracle avec ça, mais le problème, c'est que les magiciens là-bas avaient un truc aussi. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils mettaient du vernis peut-être sur des serpents, je ne sais pas trop comment ça marche, là, mais bref. Mais un jour, vous rappelez, Coran, Dathan, Abiram, je pense que c'est dans Nombre 16, ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron en disant, « On est tous saints. » C'est vrai que c'est un peuple qui est mis à part, mais ce n'est pas vrai parce qu'on est tous saints, on a le même appel. Et ils ont manqué finalement sur la base de leur justice propre. On voulut débarquer Moïse et Aaron du leadership. Malgré que Dieu leur parlait, surtout à Moïse, quasiment comme un ami parle à son ami. Puis il y avait à toutes les fois que Moïse entrait dans la tente d'assignation, la colonne de fumée se mettait là, à la porte. Et les gens pouvaient voir une manifestation incroyable toutes les fois que Moïse rentrait là. Malgré tout ce qu'ils voyaient, et c'est là le danger que les Écritures nous mettent en garde sans arrêt, méfiez-vous de l'arrogance, de l'orgueil qu'on peut avoir dans notre cœur qui nous rend aveugles. Qui nous rend aveugles de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est venu et il nous a montré le chemin. Il est venu humble. Humble. S'il y en a un qui aurait pu venir glorieux de tous les humains, imaginez-vous, Dieu se fait un être humain. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un vous dit, si tu avais à te faire, comment tu t'aurais fait? Bien, c'est une obsession chez nous. La plupart d'entre nous, on serait fait différemment, pas vrai? Moi, je m'aurais donné une couple de pouces de plus. Tu sais? Puis plus fort. Surtout quand j'étais à la petite école. Mais c'est pas grave, le judo m'a aidé quand même. Là, tu sais? La plupart d'entre nous autres, on est prêts à... Si c'était pas vrai, je suis content de ce que je suis. Oui, mais les compagnies de Botox et compagnie ne feraient pas tant d'argent. Les cosmétiques, ils font des milliards. C'est au point à quel point Dieu s'est fait humain. Et quand il s'est fait humain, il a même annoncé d'avance qu'il va être sans apparence. En d'autres mots, bien ordinaire. Ça devait être fascinant de rencontrer Jésus. Parce que dans tous les films de Jésus, c'est toujours un beau Jésus, hein, pas vrai? Peut-être que là, ils s'en viennent plus réalistes. Il paraît qu'il y a un nouveau style de film Jésus, le Chosen, je pense, quelque chose de genre. J'ai juste vu une petite séquence. Bon, il n'est pas laid, le gars, mais il est plus ordinaire. Mais on aime idéaliser. On veut se couvrir. On a une honte qu'on veut combattre sans arrêt de nous-mêmes. Et le Seigneur veut nous délivrer de cette honte, non pas en nous donnant de faire des œuvres spectaculaires, mais en disant, viens chez nous. Il va nous adopter. Adopté par Dieu, racheté par le Seigneur. Et il dit, maintenant, je vais te donner un souverain sacrificateur qui va être supérieur à tous les autres. Parce que tous les autres duraient jusqu'à quelques années, puis ils mourraient tous. Et puis en plus, avant de faire le sacrifice pour le peuple, ils devaient faire un sacrifice pour eux d'abord à cause de leur propre péché. Mais celui qui est venu, il a juste offert un seul sacrifice pour son peuple. Pour tout son peuple. Tous ceux qui vont se tourner vers lui ont été rachetés par un seul sacrifice qui rend parfait une fois pour toutes, ce qu'il va expliquer un peu plus loin dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Maintenant, pourquoi on a un souverain sacrificateur? Ce n'est pas parce qu'il faut dire, c'est tout réglé. Parce que regardez l'auteur, là, qu'est-ce qu'il dit? Il va nous dire ici, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est quand même intéressant de voir qu'il a traversé les cieux. Il n'a pas juste traversé le ciel. C'est une image, c'est sûr que c'est une image, parce qu'il n'est pas parti sur la lune, Jésus, là, dans l'espace, là, tu comprends? Il y avait juste un imbécile astronaute russe qui avait dit un jour, quand je suis arrivé dans l'espace, vu que le communisme de l'époque, c'était anti-chrétien, anti-croyance en Dieu, il a fait une déclaration stupide. Quand je suis arrivé dans le ciel, je n'ai pas vu Dieu. Puis il paraît qu'il y avait un Américain qui était là, tu sais. Mais si tu avais enlevé ton casque, tu l'aurais rencontré. Mais il n'est pas parti dans l'espace, parce qu'il y avait finalement, dans un concept juif, finalement, Dieu habite les cieux des cieux. Donc, c'est comme toujours pluriel. Est-ce que vous vous rappelez quand Paul dit « Je connais un homme », il parlait de lui, là, je ne sais pas si c'est dans ce corps ou hors de ce corps, qui est entré dans la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez combien d'étages? Troisième ciel. En d'autres mots, puis même dans les écrits apocalyptiques juifs, il y avait souvent sept étages, mais je me fie plus à Paul parce qu'il était là en direct, lui, tu sais. Troisième ciel, c'est comme si les cieux des cieux. Et Jésus-Christ, contrairement aux souverains sacrificateurs de l'époque, quand il entrait dans le lieu très saint, juste une fois par année, avec du sang, pour répandre sur, finalement, le tabernacle qui était là, tu sais, eh bien, après que c'était fait, il fallait qu'il sorte. Et il y a une chose de caractéristique vraiment spéciale dans le temple que Dieu a fait bâtir à Jérusalem, même dans le temple d'assignation, il y avait un meuble qu'il n'y avait pas. Aucune chaise. Parce qu'oubliez pas, à l'époque, quand tu avais fini ton travail, tu le manifestais en t'assoyant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des chaises dans toutes, là. Mais à l'époque, c'était une manière de montrer. C'est à répétition, mais ce n'est pas accompli. Ce n'est pas accompli. Il est dit, par contre, que quand Jésus-Christ, lui, a donné sa vie en rançon, il est parti finalement il a traversé les cieux, il a présenté son sacrifice, le sang, son sang, sa vie, et il s'est assis sur le trône de Dieu. L'œuvre est parfaitement accomplie. Notre souverain sacrificateur a fait un sacrifice, une fois pour toutes, et tous ceux qui vont venir à lui, comme Paul le rappelle, tous ceux qui vont venir à Dieu par Jésus-Christ vont être sauvés. Parce qu'ils vont bénéficier du sacrifice de Christ qui a été fait une fois pour toutes. Maintenant, il a été fait une fois pour toutes pour qu'on entre dans cette nouvelle dimension, dans cette présence de Dieu pour toujours. Et pendant qu'on est sur terre, dans notre vocation, pourquoi on va devenir zélé pour les bonnes œuvres? Paul va le dire différemment dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, en disant, « Nous sommes son ouvrage dans la nouvelle création. On est l'ouvrage de Dieu. On est son ouvrage créé en Jésus-Christ, nouvelle naissance. » Comme Paul rappelle aux croyants de l'époque, rappelez-vous, vous êtes une nouvelle création. Ce n'est pas d'être circoncis pour circoncis qui compte. Ce qui est le plus important, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. Nouvelle création, maintenant, ça veut dire que ici sur Terre, vous avez maintenant, on pourrait dire, deux pôles, deux tensions. Une tension, finalement, entre votre ancienne vie, la chair, et votre nouvelle vie, l'homme nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous avez véritablement l'homme nouveau en vous. Mais en même temps, n'oubliez pas, on a toujours la chair. Pas vrai? Ceux qui ne sont pas au courant, on va vous le rappeler. Là. Et donc, c'est pour ça que, dans la lumière du Seigneur, de mortifier la chair, c'est d'y enlever de plus en plus ses droits de faire ce qui est mal. C'est désamorcer, finalement, de penser que j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois faire sa volonté. Et ça, c'est le désir nouveau de l'homme nouveau. De faire maintenant les désirs qu'on a en nous, produits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Il produit les désirs de Dieu. De la même manière que Jésus rappelle aux gens de son époque, les pharisiens, vous êtes en train d'accomplir les désirs de votre Père. Les autres étaient sûrs qu'ils étaient des super sauvés, là, tellement qu'ils étaient bons à leurs yeux. Et il leur rappelle, votre Père, c'est le diable. Car vous voulez accomplir ses désirs, vous voulez me tuer parce que je vous dis la vérité. Donc, on voit ici qu'on va toujours être, en tant qu'être analogique, l'enfant de qui? Et c'est pour ça que notre comportement, il est extrêmement important, comment on vit les choses. Fortifié dans l'homme nouveau. Maintenant, est-ce que ça arrive que vous manquiez votre coup? Jamais, pour certains, je sais. Mais le reste de l'Assemblée qui sont poches, ça vous arrive-tu? Moi, je suis obligé d'aller voir le Seigneur assez régulièrement. Juste, même pas juste dans mes actions, dans ma tête. Ça vous arrive-tu des fois dans votre tête de donner des... Puis ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Ou encore avoir de l'amertume, du murmure. Et puis tu te rappelles en disant, attends, le murmure dans le désert, c'était pas une bonne chose. Le Seigneur n'a pas l'air d'apprécier trop de murmure. Plutôt, il veut voir des actions de grâce, de la reconnaissance. Mais je suis tendu entre la chair et l'esprit. Maintenant, si j'ai échoué, puis en passant, souvent, n'oubliez pas, si vous êtes trop sûr de vous-même, les événements de la vie, puis les gens autour de vous, ils vont vous rappeler vos fautes. Hein? On dirait qu'ils ont le ministère de vous faire un miroir d'en face, et puis des fois, tu sais, ça peut être décourageant. Mais découragez-vous pas. Si quelqu'un vous pointe du doigt méchamment ou avec bonté, peu importe, on a un souverain sacrificateur. Allons voir le Seigneur en disant, ils m'ont accusé de telle chose. Moi, je ne sais pas combien de fois au travers de mon ministère, ça fait plus de 40 ans, je suis pasteur. J'entends régulièrement des gens qui décident de partir de l'Assemblée après plusieurs années en disant, moi, je pars de l'Assemblée parce qu'il manque d'amour ici. Bien, nous autres, on est restés, c'est toi qui es parti. C'est toujours, puis moi, vu que je suis le coach, puis je suis le gars en avant, que je représente tout le monde, eh bien, je me fais accuser d'être méchant. Je manque d'amour, j'ai passé de temps avec eux autres. Et puis même des fois, c'est ceux avec qui j'ai passé le plus de temps qui vont m'accuser que je ne passe pas du temps avec les autres. Ben oui, tu as pris tout mon temps. Je veux dire, il n'y a pas moyen de s'en sortir, cette affaire-là. Tu sais, si... Puis au début, quand j'étais jeune pasteur, j'essayais d'être parfait. Bon, il m'a devenu parfait, mais j'ai abandonné ça assez vite. Parce que tu as beau essayer, ça ne marche pas. Fais le mieux que tu peux. Mais on est rassuré d'avoir un souverain sacrificateur. C'est par sa justice à lui qu'on est sauvé. C'est lui qui va nous laver. Mais comment il va faire si tu vois qu'on t'a accusé, tu sais, je ne sais pas moi, des gens vont dire, tu ne m'as pas soutenu, tu n'as pas été en arrière de moi, tu ne m'aimes pas. Non, ce n'est pas vrai pantoute. Peut-être beau t'essayer de t'expliquer, ça ne rentre pas dans sa tête. Tu sais, des fois, essayer de vous expliquer à quelqu'un qui vous accuse, là, ça... Ils ont déjà leur procès puis leur sentence de fait. Oublie ça, chum, tu vas perdre la salive pour rien. Eh bien, tu as le choix, soit de vouloir te venger parce que tu penses que c'est une injustice, mais le Seigneur dit non, non. Bien-aimé, ne vous vengez pas vous-même. à moi appartient le jugement et la colère. Et donc, c'est un acte de foi qu'il faut faire. Mais combien de fois on peut échouer un petit peu? Même si vous n'avez pas été frappé la personne, dans votre tête, là, ça vous arrive-tu de faire des scénarios où vous pétez des gueules? Moi, ça m'arrive une couple de fois. Puis même une fois, je me rappelle, j'étais avec ma femme, on était encore à Cartierville, ça fait longtemps, puis c'était encore un autre temps, ben, tu sais, il faut que j'en ai des temps de main de pression. Puis là, c'était un bombardement, tu sais, que ça arrive de tous les bords. Puis je ne trouvais plus le moyen, tu sais, d'arrêter ça. Puis dans ma tête, là, j'avais une colère. Mais je ne savais pas trop comment la gérer à l'époque, tu sais. Puis je me rappelle, on s'en tournait, on restait sur Louis Jadon, là, tu sais. On partait de l'église Good Shepherd. On marche dans un parc, tu sais, on passait à travers un petit parc des fois. Puis là, je vois deux gars arrivant en avant de moi qui marchent. Puis dans ma tête, je me dis, hey, peut-être que je vais pouvoir me battre avec eux autres. Il me pogne l'idée quasiment de voir si je ne peux pas les narguer pour dire, au moins ces deux gars-là, ils vont payer pour tous les autres. Mais à la fin, j'ai oublié qu'ils étaient un peu plus grands que moi. Puis ils étaient deux. Dans ma tête, le danger, c'est moi qui fais le scénario. Et c'est dangereux, parce que dans la vraie vie, là, ça ne se passe pas comme dans ta tête. Et puis, j'étais avec ma femme, tu sais, puis là, je ne disais pas ce que je pensais, parce qu'elle m'aurait dit, Jeffrey, tu sais. Et puis, à un moment donné, j'ai laissé les deux gars passer. Je me disais, hey, t'en viens bizarre, toi, là. Tu sais, tu veux péter la gueule du monde, puis en plus, tu dis que t'es pasteur. Rappelle-toi, le Seigneur t'a confié ses brebis, pas pour que tu fasses des méchouis. Ça fait que, mais t'arrives, moi je suis arrivé, tu sais, puis là, tu te sens coupable de penser des idées aussi. Puis là, bien, c'est là qu'on va dire, oui, je te demande pardon. La haine, la méchanceté, la vengeance, ça ne fait pas partie de que tu veux que j'aille dans. On doit être des ambassadeurs de ta grâce. On doit aller annoncer ta grâce. On doit être connu pour notre douceur. On doit être connu aussi pour l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et puis, c'est pour ça que c'est béni de savoir qu'on a un souverain sacrificateur, regardez, qui peut avoir entièrement compassion. Il sympathise avec nous. Le mot grec, là, c'est sympathiser. Il supporte avec nous notre souffrance. C'est un beau mot, ça, sympathie. Tu sais, souvent, on dit, ah, tu as toutes mes sympathies. Mais sympathie, ça veut dire que tu sens la douleur de l'autre. Mais comment il peut sentir ça? Parce qu'il est non seulement... Parce qu'il dit, il nomme le nom. C'est qui qu'on a comme souverain sacrificateur? Jésus, virgule, le Fils de Dieu. Ça, c'est deux choses. Quand il dit Jésus, c'est qui d'après vous? L'homme. Dieu s'est fait homme. Ça, c'est Jésus, c'est l'homme. L'homme véritable. Et quand il dit le Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus d'abord. Parce qu'il faut que ce soit un humain qui soit l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et il sait très bien ce qu'on vit, car lui-même a été mis à l'épreuve comme nous en toutes choses. Puis même, il y a un auteur qui résumait, je pense que c'est M. Hodge qui disait ça. Regardez bien. Tu sais, quand il peut avoir sympathie pour nous, il a été en tout point tenté comme nous, mais sans péché. OK, regardez bien. Il dit « La sympathie avec le pécheur dans son épreuve » ne dépend pas de l'expérience du péché qu'on aurait commis, mais de l'expérience qu'implique la force face à la tentation de pécher que seul le sans-péché peut connaître en pleine intensité. Celui qui tombe cède avant la dernière tension. Tu sais, nous autres, on peut penser que c'est dur, mais celui qui a été éprouvé comme nous en tout point n'a jamais cédé au péché. Combien d'entre nous, quand ça devient trop, on craque, on cède au péché? Et c'est pour ça que l'auteur va dire un peu plus loin, « Oubliez pas, vous n'avez pas eu à résister jusqu'au sang. » Jésus-Christ a résisté en humain jusqu'au sang. Il a vécu de l'injustice de manière tellement criante, et même en tant qu'humain, n'oubliez pas, dans la volonté auprès du Père. Est-ce que vous réalisez que la volonté de Dieu, c'est de permettre à ce que ses ennemis triomphent de lui? Quand Jésus sait très bien qu'il avait tout pouvoir, il sait très bien qu'il y avait une armée d'anges qui était prête à le défendre. En passant, un seul ange dans l'Ancien Testament a rayé finalement de la carte quasiment toute une armée. Je pense que c'est les Assyriens qui étaient là. Et puis finalement, un ange la nuit est arrivé, ils sont tous morts durant la nuit. un ange. Il dit, il y a une légion d'anges. Tu penses si j'ai ça? Tu sais, comment Jésus a pu soutenir l'injustice finale de toute sa vie face à l'incrédulité d'Israël, face à l'incrédulité de ceux qui devaient prendre soin d'Israël, qui étaient les bergers d'Israël, mais des mauvais bergers. Et puis, en plus, il a averti ses propres disciples, « Même vous, vous allez m'abandonner. Mais moi, j'ai prié pour votre foi. » En d'autres mots, il va venir les rechercher après. Mais même eux, ses propres amis, vont l'abandonner. Même Pierre, il est sûr que non, 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 regarde, moi, si eux autres, peut-être, tu sais, Pierre, il avait une bonne opinion, je pense, de lui, je pense, mais il n'y avait pas une bonne opinion des autres qui le suivaient, tu sais. Si tous t'abandonnent, moi, là, je meurs pour toi. Et Jésus lui rappelle, gars, le coq n'aura pas le temps de chanter, tu vas me renier trois fois, tu vas jurer que tu ne me connais pas. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, comment le Seigneur peut soutenir tant d'injustices? Il a manifesté, il dit, ça, c'est la vraie puissance. Ça, c'est de la vraie force. Nous, on pense que d'être fort, c'est de se mettre en colère puis se transformer en Hulk. Pas vrai? Tu sais, on dit, des fois, la colère nous pointe, puis on dit, hey, là, on va m'aller les régler, les problèmes. Non, ça, c'est que là, tu viens de craquer. Tu es faible. Tu viens de faire dans tes culottes. Puis Hulk, ben, il perd tout. Il perd ses culottes, sa chemise au complet, tu comprends, quand il devient trop gros. Ça fait que le Seigneur dit, la vraie force, c'est Dieu qui l'a. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis lent à la colère. Celui qui pourrait se mettre dans une colère totale, parce que l'auteur nous rappelle ici, n'oubliez pas, pensez pas que Dieu est juste amour. Il est entièrement, totalement justice. C'est une chose terrible que de tomber entre ses mains. Les gens qui négligent un si grand salut, un amour et une bonté incroyable au point que Dieu donne son propre Fils à ce qu'il devienne un être humain et qu'il devienne notre souverain sacrificateur pour maintenir notre marche, notre communion ici à cause de notre chair, qu'on peut échouer souvent, son amour envers nous est absolument inimaginable. Et quand on pense qu'ici au Québec, quand on entend de plus en plus tout le monde se vanter de mépriser Dieu publiquement, c'est incroyable. On valorise tout ce qui va à l'encontre des lois de Dieu, tant que c'est en faveur de ceux qui parlent en passant. Eh bien, moi, je supplie le Seigneur, je le supplie, je sais, je peux juste y demander, puis essayer d'organiser ma vie, de voir qu'on peut le faire, puis là, j'essaie de suivre les provisions que Dieu nous donne, tu sais. Il faut qu'il y ait un véritable réveil au Québec. Pas juste deux, trois églises qui grossissent. Pas juste des grosses églises de 1000, 2000 personnes, 3000 personnes. Parce que combien de fois, même si ça grossit trop vite, y a-t-il eu une vraie repentance? Y a-t-il eu une vraie régénération? Y a-t-il eu une vraie foi dans ce Dieu qui nous demande d'être son ambassadeur sur terre? Est-ce qu'on est prête à ce que ça ruine nos vies d'être des authentiques témoins de Dieu? Vous vous rappelez quand Jésus est ressuscité, il est revenu, il restaure les gars, Pierre est là, il est content, il dit à Pierre, « Je vais te montrer comment tu vas me glorifier. » Tu sais, habituellement, quand quelqu'un dit « Je vais te montrer comment tu vas me glorifier », c'est du succès. Et il explique, au fond, comment il va mourir à cause de lui. En d'autres mots, comment ta vie va être sur terre ruinée à cause de moi. Ils vont même te tuer. Pierre, il écoute ça, tu sais. Il voit Jean arriver. Puis lui, tu sais, on dirait qu'on ne veut pas être seul, hein? Il dit, ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes oignons. Si lui, je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, ça me regarde. Le Seigneur, finalement, rappelle à ses disciples, vous allez être haïs à cause de moi. On va vous chasser des synagogues. Vous allez être persécutés. Certains vont même croire rendre un culte à Dieu en vous tuant. Maintenant, est-ce qu'on est prête à demander véritablement un réveil? Puis moi, je voudrais juste saluer des gens qui rentrent dans l'âge plus âgé comme moi, là, tu sais. Je suis content. Mais je suis triste pour mes enfants, mes petits-enfants, par exemple. Mais moi, de savoir, là, tu sais, maximum en avant de moi, là, il me reste à peine, si Dieu m'accorde en plus ça, là, 20 ans, là, hey, 20 ans, c'est vite passé, hein, pas vrai? 20 ans, là, m'avoir 84 ans. C'est pas béni, ça? Même si le monde dégénère de plus en plus, je me dis, écoute, Seigneur, si tu veux choisir quelqu'un que ça ruine sa vie, bon, bien, c'est plus moi, parce que j'ai moins de temps à passer ici que nos enfants, nos petits-enfants. Peux-tu y avoir un vrai réveil? Mais c'est sûr que je ne veux pas courir après d'aller en prison, puis tu vois, ça ne me tente pas, là, tu sais. Mais écoute, s'il faut, bien, tout passe, anyway. Mais je vais avoir besoin du sacrificateur, notre souverain sacrificateur, pour qu'il puisse régulièrement me restaurer, me réintégrer. Parce que c'est facile d'en parler en théorie. C'est une autre histoire quand ça va arriver. Est-ce que je suis prêt à, tu sais, je sais, juste de témoigner notre foi? Est-ce qu'éventuellement le gouvernement, au nom de la tolérance, ils vont être intolérants envers nous? C'est vraiment la chose la plus idiote, la plus stupide que j'ai jamais vue. La fausse tolérance, la tolérance du dictateur. Vous allez tolérer tout ce que moi je vous impose, mais vous, je ne vous tolérerai plus. La démocratie est en train de pogner le bord. Hein? Oui. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas, l'Église a peut-être exagéré des fois dans le passé en s'imposant, mais là, l'athéisme et le gouvernement n'ont pas le droit de s'imposer non plus. S'ils ont blâmé l'Église du passé d'avoir imposé la foi qui est au fond un acte que seul un libéré peut faire. L'acte de foi, c'est que Jésus est venu lier l'homme fort de la maison et il libère le captif. Un acte de foi envers Dieu, c'est un acte de liberté que Christ a produit en nous. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous réserve. Mais devant Dieu, honnêtement, devant le Seigneur, s'il vous plaît, c'est comme si le Seigneur nous dit, restez propre devant moi. Quand je vous montre une faute, justifiez-la pas, expliquez-la pas. Venez à moi, confessez-la, et le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Le sang de Christ, le véritable agneau et le véritable sacrificateur qui est assis sur le trône de Dieu, comme il dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, au nom du sacrificateur. Maintenant ici, le terme, là, approchons-nous, le temps du verbe d'après vous, là, c'est un... Oui, c'est un impératif, c'est vrai, mais à quel mode? Présent, ce n'est pas un aoriste. Ce n'est pas comme une fois pour toutes, tu es approché de Dieu. C'est, en d'autres mots, on pourrait dire, approchons-nous continuellement, à tous les jours, sans arrêt, dès qu'on sent qu'on a passé à côté, approchons-nous en disant, oui Seigneur, je m'accorde avec toi sur ton jugement de mon comportement. J'ai murmuré. J'ai aimé donner une parole négative de quelqu'un. Sur quelqu'un. Tu sais, dans le sens que sa lumière puisse briller et que dans sa lumière, sa parole, le comportement qu'il attend de nous, à son image, si on manque notre coup, confessons. L'auteur, là, c'est le seul auteur que je connais dans le Nouveau Testament qui va vraiment définir le rôle, le type du souverain sacrificateur, c'est Jésus maintenant. Les autres le disent de manière plus bref, mais lui, il va élaborer pendant plusieurs chapitres le rôle du souverain sacrificateur. Et le nôtre, écoutez, c'est pas n'importe qui. C'est le sacrifice et le sacrificateur en même temps. En plus, c'est Jésus, l'homme, il sait très bien ce qu'on vit. Il sait ce que c'est d'avoir peur. Il sait c'est quoi l'angoisse. Il sait, il a vécu lui-même face toutes à ces choses-là en humain, pas en Dieu. En tant que Dieu, il peut pas être touché. En tant que Dieu, là, il est invincible, il est total, il est bienheureux éternellement. Mais c'est en humain qu'il est venu et qu'il a vécu notre faiblesse. Il a vécu finalement au point qu'il va dire à ses amis, « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. » Écoute, c'est pas béni ça d'entendre que Jésus a su c'est quoi être angoissé jusqu'à la mort. Puis il est dans le jardin, il prie, puis il voit que ses amis, finalement, ils s'endorment. Ils n'ont pas de capacité. Ils sont complètement vidés. Il est seul. Mais en humain, il dépend de son Père. Il nous a montré le vrai chemin. Je ne pouvais même pas compter sur mes propres disciples, mais il pouvait toujours compter sur son Père. Et puis finalement, il en a pleuré dans son intercession. Il a supplié Dieu. Donc, c'est quand même béni de savoir que Dieu, qui s'est fait homme, sait très bien, non pas qu'il avait besoin de le savoir parce qu'il ne savait pas c'est quoi, Dieu sait tout, mais qu'il l'ait vécu. C'est pour ça que l'auteur nous dit, n'oubliez pas, on a un souverain sacrificateur qui peut vraiment compatir puis sympathiser avec nous autres. Il sait ce que c'est d'avoir peur, d'avoir faim, d'avoir soif, d'être trahi. Il le sait. Et lui, il va nous montrer en humain comment on dépend du Seigneur, comment on s'attend à lui. C'est le seul moyen de passer au travers. C'est pour ça qu'il faut apprendre tous à s'aimer les uns les autres. Mais savez-vous quoi? Dépendez de personne ici. Même Paul va le dire différemment, « Ceux qui sont mariés, vivez comme pas mariés. » Ça, c'est bien bizarre, ça. Non, parce que si tu dépends trop de ta femme, si tu dépends trop de ton mari, eh bien, c'est vous quoi? Ça peut être facile, mais on dépend plus de ton mari ou de ta femme, tes enfants, tes amis, que du Seigneur. Et combien de fois les gens sont complètement brisés parce que quelqu'un vous a trahi. Mais si vous vous attendez à ce que ça peut arriver n'importe quand, malheur à celui qui s'appuie sur la chair. Vous vous rappelez de ces passages-là? Ce ne sont pas des passages de fun à lire, mais ça nous met en garde. Si le Seigneur, par exemple, vient chercher ma femme, vas-tu me suicider parce qu'il vient prendre ma femme? Même, tiens, on parlait un matin, je pense, ou hier, la mort de nos enfants. Imaginez la perte d'un enfant. Ça doit être une des douleurs les plus violentes, les plus dures qu'on peut vivre, je pense. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous apprenne à vraiment être renouvelé par lui sans arrêt. C'est le seul moyen qu'on va être capable de passer au travers. Et puis, quand on va nous annoncer finalement qu'on soit notre billet, ça ne sera pas Air Canada, ça va être Air Céleste, eh bien, savez-vous quoi? Peut-être que ça va être une joie pour nous, parce que pour nous, là, la fin de la vie, ce n'est pas un désastre comme un athée va l'entendre. Pour nous, là, on s'en va à la maison de notre vrai Père. On s'en va à la maison. On s'en va rejoindre. Devine qui nous attend le premier? Notre grand frère. Notre grand frère. Jésus nous aime. On est ses frères et sœurs. Il dit, je suis venu avec les enfants que tu m'as donnés devant Dieu. C'est nous autres. Il nous aime vraiment. Et c'est pour ça que tout ce qui vous arrive, le Seigneur n'est pas insensible. Le bien qu'on vous fait, le Seigneur ne l'oubliera jamais, le bien qu'on vous a fait. Le mal qu'on vous a fait, le Seigneur ne l'oubliera jamais non plus, le mal qu'on vous a fait. Vous vous rappelez ce que dit à Paul? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a jamais persécuté Jésus de Nazareth. Il a persécuté finalement les chrétiens de l'époque. Il les faisait mettre en prison. Il était là pour le meurtre d'Étienne. Est-ce que vous imaginez la bonté et la grâce de Dieu d'accorder à cet homme meurtrier, méchant comme il était, un imbu de lui-même? Tu ne peux pas être plus imbu que l'apôtre Paul avant sa conversion. C'était quelqu'un qui devait parler de lui sans arrêt. Et quand le Seigneur lui a accordé la repentance, ça l'a métamorphosé dans un autre homme complètement différent, de violent, rempli de justice propre, il est devenu tendre comme une mère. Ça l'a gâché le restant de sa vie. Combien de fois il était en prison, faussement accusé, lapidé, battu. Des fois, il souffrait de la faim. Puis même pas soutenu souvent par les églises locales, même qu'il avait fondées. Les injustices que vécu cet homme sont inimaginables. Et pourtant, il n'est jamais devenu amer. Il n'a pas été capable humainement de le faire, ça. Il a su comment s'attendre au Seigneur. Et il nous a même dit, Luc nous a même dit un événement dans sa vie où le Seigneur savait très bien que là c'était la limite que Paul était capable d'endurer quand il est arrivé à Corinthe. Et là, il y a eu finalement un songe. Le Seigneur dit, parle, j'ai un peuple nombreux ici. Parle, personne ne va mettre sa main sur toi. Puis quand les Juifs ont découvert qu'il était arrivé à Corinthe, ils ont voulu tout de suite l'amener encore faussement en accusation. C'était Gallion qui était là. Et Gallion, il a dit, hey, si c'est une question de religion, votre loi, je ne veux rien savoir. Tout le monde dehors. Bye bye. Et il a été protégé par les Romains pour faire son ministère à Corinthe pendant des années. Écoutez, on a un Dieu qui nous aime. Il nous aime tellement que son Fils s'est incarné pour dire, je sais très bien ce que vous vivez, je l'ai vécu moi-même. Mais je n'ai jamais cédé au péché. J'ai résisté jusqu'à la mort, jusqu'au sang. Il sait très bien que d'autres, on va craquer avant ça. Donc, on a vraiment quelqu'un qui comprend ce qu'on vit. Mieux que même nous, on peut comprendre ce qu'on vit. Moi, ça me rassure énormément. Notre grand frère nous aime énormément. Et il a reçu de son Père tout pouvoir. Il dit, continuez à me faire confiance. Si je vous montre une faute, venez me voir, confessez-la. Mon sang vous purifie de tout péché. Je restaure la communion, on continue encore. Amen. Fait que Seigneur, il y a juste toi qui peux faire que ça devienne notre expérience de vie. On ne sait pas qu'est-ce que tu nous as préparé. Tu nous bénis énormément, et ce qui est le plus merveilleux dans garder la communion avec toi individuellement, en tant qu'individu, et aussi collectivement, ensemble, c'est, Seigneur Dieu, on découvre les œuvres que tu as préparées. Car comme tu le dis par l'apôtre Paul, nous sommes ton œuvre, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin qu'on y marche. Et quand on les découvre, quand on découvre ta volonté, tes œuvres que toi t'as préparées et qu'on y marche, ta providence devient tellement évidente. Seigneur Dieu, tu nous donnes des rendez-vous, des clins d'œil. On passe comme d'une théorie de la foi à vraiment t'avoir connu. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, garde-nous dans cette communion, qu'on ne la néglige pas, qu'on ne l'abandonne jamais, afin qu'on soit toujours dans cette joie de te connaître, car la joie du Seigneur est notre force. Sois béni éternellement, Seigneur, et merci de nous avoir rachetés, Seigneur Jésus, et même de ne pas avoir honte de nous appeler tes frères et sœurs, et d'être notre grand frère qui nous protège, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui pourvoit tout ce qu'il nous faut, au point que tu nous as accordé même l'Esprit de Dieu en nous pour nous instruire. Seigneur, merci énormément. Et que quiconque veut puisse venir à toi, tu ne mettras pas dehors, tu dis celui qui vient à toi. Seigneur Jésus, tu es le seul chemin. Nul ne vient au Père que par toi, qu'on puisse continuer à le dire au monde entier. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par toi, ton œuvre à toi, Seigneur Jésus-Christ, à la croix. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, remplis-nous de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta sagesse, de la direction, de ton instruction, afin qu'on continue à marcher dans tes voies. Merci d'avance, au nom de Jésus, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Bonne semaine.